BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Raphaël Coudert, Good Evening Business.
Bientôt 18h sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 19h, c'est l'heure de Good Evening Business. À la une ce soir, le bilan mitigé des résultats du premier semestre. Ça y est, l'intégralité du CAC 40 a publié et les bénéfices ont fondu sur la première partie de l'année. La Bourse de Paris s'inquiète, on voit ça dans un instant avec Antoine Larigauderi et à 18h40 avec Bénédicte Hautefort, la fondatrice de Scalance, qui a analysé pour nous l'ensemble de ses publications du CAC. Et puis l'autre gros titre ce soir, c'est la tech américaine qui est à la peine. Intel va supprimer 15% de ses effectifs parce qu'il est largué sur l'IA générative. Amazon perd lui aussi près de 10% à Wall Street. On voit cela dans quelques instants dans le journal.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence avec cette séance une nouvelle fois dans le rouge pour le CAC 40. Journée compliquée, semaine compliquée avec des publications en demi-teinte. Antoine Larigauderi, comment on explique tout cela ?
Ben, c'est vrai que globalement, ce sont les trimestriels qui sont en grande partie responsables de tout ça. Bon, de manière un petit peu plus générale, il y a un contexte macroéconomique qui devient compliqué et on a pu le voir du côté des États-Unis, à savoir un marché de l'emploi qui est en train de ralentir fortement, même plus fortement que prévu. Et donc tout ça remet sur la table un scénario qui avait pointé le bout de son nez il y a quelques mois, mais auquel on ne croyait pas vraiment, mais qui refait sa réapparition, celui d'une récession du côté des États-Unis. On voit parallèlement, et ça se sent d'ailleurs sur les trimestriels d'entreprise du côté du CAC 40 à travers tout un tas de secteurs, quand même des fondamentaux qui ne sont pas très bon, en particulier une baisse de la consommation. Ça, c'est vraiment pas bon. La volatilité des taux d'intérêt qui fait que certains secteurs d'activité sont quand même très atteints. On a vu en particulier, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la tech aux États-Unis qui a, et c'est vrai, un petit peu déçu. Il y a la forme d'une certaine complaisance du côté de Wall Street vis-à-vis des grosses valorisations et on était très exigeants. Mais là, à Paris, le secteur de la semaine, c'est le secteur bancaire. Et c'est vrai qu'avec la forte baisse encore de Société Générale qui perd quasiment 6% en clôture, de Crédit Agricole moins 5,6%, on sent que ce milieu d'été est en train de changer le paysage et qu'on s'achemine en particulier vers des séances beaucoup plus volatiles, des indicateurs de volatilité qui sont d'ailleurs en train de s'envoler. On est au plus haut depuis octobre 2022, notamment du côté des États-Unis.
Et vous l'évoquiez, Antoine, Wall Street qui est plombé par ce marché de l'emploi qui ralentit plus que prévu.
Oui, qui ralentit plus que prévu. Alors c'est vrai que Christian Parizeau nous le disait il y a quelques minutes dans l'émission, on n'est pas non plus dans une économie américaine qui commence à licencier. Il y a un indicateur, en revanche, et vous en parliez dans les titres, et c'est peut-être un des événements de la semaine, c'est Intel, qui est tellement largué sur l'intelligence artificielle, qui subissent évidemment sur le reste de leurs produits classiques une véritable guerre des prix, parce que les composants pour ordinateur, c'est bien, mais ça n'intéresse plus personne. Donc ils sont obligés de se reformater à vitesse grand V pour prendre acte d'un ralentissement dont il est lui-même à l'origine. Et ça, c'est vrai que quand on voit des entreprises qui se trompent à ce point, quand parallèlement à une échelle macroéconomique, on craint que la Fed en fait ait commencé à baisser ses taux trop tard pour être véritablement efficace, et on le voit, on se dit que on s'achemine sans doute vers une fin d'été un petit peu plus compliquée, avec en tout cas des marchés qui en finissent avec les valorisations extrêmes. Et c'est peut-être aussi un des maîtres mots de cette semaine. On a écrémé les valorisations sur la tech américaine et sur un certain nombre de valeurs un petit peu plus classiques du côté du marché européen, et particulièrement à Paris, CAC 40 quasiment au plus bas de l'année.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. Et bien justement, on va rester aux États-Unis avec cette actualité, la tech à la peine aujourd'hui. Intel, je vous le disais, dégringole aujourd'hui à Wall Street. Le titre du fabricant de puces perd près de 30% ce soir. Le groupe annonce qu'il va supprimer 15% de ses effectifs, soit environ 18 000 salariés, car il est trop en retard sur ses concurrents dans l'intelligence artificielle. Stéphane Roder nous a rejoint pour en parler. Stéphane, bonsoir. Vous êtes spécialiste de ces questions liées à l'intelligence artificielle. Décision radicale prise par Intel, c'est une nouvelle preuve que l'IA va tout bouleverser.
Oui, l'IA bouleverse vraiment même le marché des processeurs. Il faut voir qu'aujourd'hui, Nvidia a 80 à 90% du marché et que malheureusement, Intel n'a pas su prendre le virage. Un, un marché de 400 milliards de dollars à l'horizon 2027, sur lequel Intel n'est absolument pas présent et laisse pratiquement Nvidia en situation de monopole, alors qu'il aurait pu bien venir prendre des parts de marché.
Stéphane, dans le même temps, une bonne partie des géants de la tech américaine ont publié leurs résultats ces dernières heures. Microsoft, Google, Amazon notamment, des résultats qui ressortent globalement supérieurs aux attentes, mais qui déçoivent une partie des investisseurs qui demandent, eux, de voir plus vite de premiers résultats justement sur l'intelligence artificielle. On le voit avec Amazon qui perd près de 10% aujourd'hui à Wall Street. Est-ce que ces investisseurs ne sont pas trop pressés?
Alors, ils sont un peu pressés, je pense, parce que Microsoft a démontré avec les produits qu'il a mis sur le marché, notamment avec Copilot, qu'il était possible de faire des produits et de les déployer sur globalement sur les PC du monde entier. Il faut maintenant attendre que ces fonctionnalités soient présentes et que, en fait, le produit puisse être acheté par les utilisateurs de PC et de Windows. Par contre, c'est totalement justifié pour Google et Amazon qui, eux, ont raté le marché du produit IA, puisque aujourd'hui, ils ne font que de l'hébergement et, en fait, ce n'est qu'une partie, en fait, du marché porté par l'intelligence artificielle.
Meta, pour le coup, parvient, lui, à tirer davantage son épingle du jeu, le groupe de Mark Zuckerberg, qui met de l'IA à toutes les sauces désormais. Il y a de l'IA dans tous ses produits.
Tout à fait, avec 3,2 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Meta a une vraie opportunité en déployant un assistant qui doit avoir une partie ludique, comme ils l'ont fait déjà avec l'IA générative et la transformation des photos. Meta a vraiment une opportunité d'être présent en fait sur l'IA générative et de l'utiliser pour que ses utilisateurs soient présents et soient mis face à sa publicité.
Merci Stéphane Roder, président d'AUBuilder. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur BFM Business ce soir. Retour en France avec cette grosse annonce dans le secteur bancaire. Le groupe BNP Paribas entre en négociation exclusive avec pour le rachat d'AXA Investment Managers, la division de gestion d'actifs de l'assureur. Une opération qui va coûter plus de 5 milliards d'euros à BNP Paribas, mais qui va donner naissance à un nouveau mastodonte européen, Caroline Morisseau.
Oui, c'est ça. BNP Paribas va faire un pas de géant dans la gestion d'actifs. Elle va récupérer 100% de la filiale d'AXA, soit près de 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La banque va ainsi doubler de taille sur ce marché avec près de 1500 milliards d'euros d'encours, de quoi la hisser au deuxième rang européen, juste derrière Amundi, la filiale du Crédit Agricole. Pour cela, BNP Paribas va en effet débourser un peu plus de 5 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup, mais c'est le prix à payer pour grossir dans ce secteur en pleine consolidation et où vraiment la taille est un élément absolument crucial. Pour AXA, en revanche, c'est un énorme virage stratégique, mûri de longue date. Ça fait longtemps qu'AXA réfléchit à grossir dans la gestion d'actifs. Elle considère que sa filiale de gestion d'actifs n'est pas assez grosse, trop petite et donc pas assez compétitive. En 2017, AXA avait déjà tenté de se marier avec Natixis, en vain, parce qu'aucun des deux groupes ne voulait perdre le contrôle. Là, Thomas Buberl, le patron d'AXA, a décidé de sauter le pas. Il accepte de perdre la main sur sa gestion d'actifs, un outil éminemment stratégique pour les compagnies d'assurance, mais il précise bien que tout cela passera par un partenariat sur 15 ans avec BNP Paribas, un partenaire de confiance, puisque les deux groupes sont liés depuis très longtemps. Ce sont des actionnaires réciproques, enfin ils ont longtemps été des actionnaires réciproques au sein des deux groupes.
Merci beaucoup Caroline Morisseau. Dans l'actualité des entreprises également ce soir, Xavier Niel relève son offre de rachat de l'opérateur Millicom. Le milliardaire français, via sa structure d'investissement personnel, propose désormais d'acquérir cet opérateur présent en Amérique latine pour 4,4 milliards d'euros. Ce rachat s'ajouterait à la longue liste des investissements à titre personnel du propriétaire d'Iliad dans ce secteur, Xavier Niel, qui est déjà présent à travers sa holding dans une dizaine de pays en Europe. Cette question, à présent, comment rééquilibrer les comptes de la Sécu ? Yannick Noeder, le nouveau rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, était ce matin sur notre antenne. Le député LR aura en charge de piloter les débats sur ce sujet à l'automne. Et pour lui, c'est impossible d'envisager un retour à l'équilibre des comptes sociaux dès 2025. En revanche, il nous a livré son agenda en trois réformes pour y arriver au plus vite.
Une réforme d'un financement pluriannuel pour avoir une lecture budgétaire sur plusieurs années. On ne peut pas non plus laisser la branche autonomie, grand âge, handicap, sans des vraies réformes structurelles. Donc il faut une loi grand âge. Et puis enfin, dernier point, quand on se compare par rapport à d'autres pays européens, nous avons beaucoup plus d'emplois administratifs, pas parce que nos hôpitaux sont mal gérés, mais parce qu'on leur demande beaucoup d'administratifs. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'une simplification, d'une débureaucratisation pour mieux revaloriser les acteurs du soin, que ça soit à l'hôpital, mais en ville, puisque beaucoup d'acteurs de ville n'ont pas eu de revalorisation depuis 2009 de leurs prestations avec une inflation galopante. Et si on veut réussir le virage ambulatoire, c'est-à-dire d'avoir des durées de séjour plus courtes à l'hôpital, plus techniques, mais que les patients soient pris en charge à domicile, il va falloir aussi qu'on s'inquiète beaucoup de renforcer les acteurs libéraux, médecins, paramédicaux, ça c'est fondamental.
On parlait des résultats du CAC 40 qui sont en baisse globalement sur le premier semestre. Ça va très bien en revanche pour Engie qui repasse dans le vert sur ce premier semestre. Le groupe relève ses prévisions pour l'année 2024 dans un contexte de progression de ses activités dans le renouvelable. Engie enregistre un bénéfice d'1,9 milliard d'euros au premier semestre et se dit confiant dans sa capacité à tenir ses objectifs d'installation de 4 gigawatts de capacité renouvelable chaque année jusqu'à l'an prochain, jusqu'en 2025. En revanche, le groupe gazier est sous pression face à la montée des tensions cette semaine entre la France et l'Algérie et au rappel de son ambassadeur. Alger qui reproche le soutien apporté par Paris aux revendications marocaines sur le Sahara occidental. Zidane Azouzi, ces tensions peuvent-elles remettre en cause la présence économique française en Algérie ?
Oui Raphaël, d'ailleurs plusieurs entreprises françaises ont déjà quitté l'Algérie ces dernières années. La RATP par exemple qui exploitait le métro d'Alger ou encore Suez qui gérait la distribution de l'eau dans la capitale algérienne. A l'inverse, le gazier Engie et le pétrolier Total Energy sont les principaux groupes français qui conservent des relations commerciales importantes. Et pour cause, Engie importe depuis plusieurs années du gaz algérien sous forme liquide, des contrats de long terme hérités de l'ancien Gaz de France et passés avec la compagnie nationale, la Sonatrach. Ce gaz naturel liquéfié remplit la totalité d'un des deux terminaux méthaniers du groupe à Fos sur mer, dans le sud de la France, à Marseille. Au total, aujourd'hui, le GNL algérien pèse environ 8% des importations de gaz en France, contre 12% il y a deux ans. À l'époque, la France, il faut dire, avait augmenté ses achats pour remplacer le gaz russe. Mais aujourd'hui, ces importations sont retombées à leur niveau d'avant-crise, car Engie importe plus de gaz de Norvège ou encore de GNL des États-Unis. Finalement, c'est Total Energy qui pèse le plus en Algérie, où il exploite même une usine de lubrifiants avec 200 salariés près d'Oran, dans le nord de l'Algérie. Le groupe détient aussi des parts dans des champs gaziers qui vont doubler leur production d'ici 2026.
Zidane, est-ce qu'il y a un risque pour la suite ?
Oui, et bien dans cas de dérapage du conflit entre Paris et Alger, Engie et Total Energy ne craignent pas pour l'instant l'approvisionnement en gaz de la France. Engie a déjà réussi par exemple à compenser l'arrêt de l'importation de gaz russe et il a signé plusieurs contrats de GNL avec des producteurs américains. Même chose pour Total Energy, alors que l'Algérie représente seulement 2% de sa production totale de gaz.
Merci beaucoup Zidane Azouzi. Au Venezuela, Nicolas Maduro a un nouvel opposant, et non des moindres, le milliardaire Elon Musk a affirmé hier sur son réseau social X que les Vénézuéliens avaient voté dans leur écrasante majorité pour l'opposition. Nicolas Maduro a vous en doutez, tout de suite réagit. Mathilde Chaminade.
En pleine conférence de presse, Nicolas Maduro mime un match de boxe pour inviter Elon Musk à venir se battre à Caracas. Challenge aussitôt accepté sur X par le patron de Tesla. L'enjeu, si Nicolas Maduro gagne, Elon Musk lui paye un voyage sur Mars. Les deux hommes n'en sont pas à leur première confrontation. Depuis des années, le président chaviste reproche à Elon Musk de vouloir contrôler le monde avec son argent, ses satellites et ses fusées. Il l'accuse plus concrètement d'être à l'origine l'origine de piratages informatiques visant le Conseil national électoral. De son côté, Elon Musk traite Nicolas Maduro d'âne pour ses opinions politiques. Le multimilliardaire de la tech est un soutien de Donald Trump et de Javier Milei, le président argentin ultralibéral. Elon Musk multiplie les provocations. Il vient d'évoquer à nouveau son combat de MMA avec Mark Zuckerberg, prévu depuis plus d'un an.
15 millions de touristes sont attendus à Paris au total pendant les Jeux Olympiques. Les arrivées de visiteurs français et étrangers sont en hausse d'après l'Office du tourisme de Paris. Mais l'affluence ne profite pas à tous de la même manière. Écoutez l'analyse de Pascal Mousset, il est président du groupement des hôtelleries et restaurations de Paris-Île-de-France.
Le fait d'avoir obligé ou incité les entreprises à pratiquer le télétravail, ça a vidé nos établissements sur la fin juillet. Sur le mois d'août, les entreprises ont pris cette directive très au sérieux. Elles le déjeunaient dans le cadre du travail, dans les brasseries, dans certains quartiers. On a eu des baisses de 70-80%. Là, on retrouve un petit peu de vigueur commerciale après la cérémonie d'ouverture, surtout dans les quartiers qui accueillent des compétitions.
Voilà, et pendant ce temps-là, les chaînes de télévision, elles, se réjouissent. Les épreuves des Jeux Olympiques de Paris affolent les compteurs d'audience, à la fois en France, mais également dans le monde entier. L'ensemble des diffuseurs surfent sur ce succès et devraient profiter de retombées publicitaires massives. Adrien Guillaume Padovan.
Carton plein, mercredi soir pour la finale de Léon Marchand, en 400 mètres 4 nages avec plus de 9 millions de téléspectateurs. France 2 détrône TF1 pour la première fois en 30 ans, grâce aux Jeux en juillet, et atteint de ses plus hauts niveaux d'audience depuis 2008. Plus de 53 millions de Français ont regardé les JO de Paris sur les antennes depuis le début de la compétition, un succès qui permet aux services publics d'engranger des grosses recettes publicitaires, 104 millions d'euros, un record. Et c'est loin d'être un cas isolé. L'autre diffuseur Eurosport enregistre une hausse de 98% de ses audiences par rapport aux Jeux de Tokyo, ce qui devrait lui permettre de générer un tiers de son chiffre d'affaires publicitaire avec Paris 2024. Même son de cloche à l'étranger, aux États-Unis, NBC a attiré en moyenne 34 millions de téléspectateurs au cours des trois premiers jours de compétition. Le network devrait réaliser en 2024 700 millions de dollars de recettes publicitaires supplémentaires par rapport à une année sans épreuve olympique. Ces jeux sont bien partis pour être les plus regardés de l'histoire.
Adrien Guillaume Padovan, voilà pour l'essentiel de l'actualité économique ce soir. Restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, on va parler d'une filière qui peine à recruter, la filière cosmétique qui cherche des talents et surtout des jeunes. Restez avec nous.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Coudert, Good Evening Business.
C'est l'un des fleurons de l'économie française et pourtant c'est une filière qui peine à attirer les talents. Aujourd'hui, la filière cosmétique veut recruter 30 000 personnes d'ici un an et demi. Et on va en parler avec Francky Béchereau. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur ce plateau ce soir. Vous êtes la directrice générale adjointe de Cosmétique Valley, l'organisme qui rassemble en gros les entreprises de cette filière. Alors rappelez-nous déjà ce que ça représente la filière cosmétique. C'est combien d'entreprises, combien de salariés en France?
Alors, la filière cosmétique, c'est 6300 établissements en France. C'est plus de 220 000 emplois. Et Cosmétique Valley, c'est bien plus qu'un simple pôle de compétitivité filière. C'est surtout une success story à la française qui a permis, en quelques années, en 30 ans, d'illustrer comment l'innovation, le savoir-faire et la collaboration permettent de hisser une industrie au premier rang mondial.
Alors, 220 000 salariés en tout dans la filière cosmétique, 71 milliards de chiffre d'affaires en 2023, mais des difficultés pour recruter. Il y a un vrai déficit d'image aujourd'hui pour cette industrie, notamment auprès des jeunes.
Tout à fait, pour la simple et bonne raison qu'on ne soupçonne pas toujours que la filière parfumerie cosmétique, c'est une industrie et qu'elle produit en France. Et c'est vrai que le secteur ne s'est pas toujours présenté comme une filière industrielle, mais aujourd'hui, elle a besoin de le faire et donc elle communique en ce sens.
Et alors, comment vous allez faire pour attirer tous ces jeunes talents ?
Alors aujourd'hui, la séduction des jeunes passe indéniablement par les réseaux sociaux. Donc une grosse campagne campagne de communication avec Brut sur les différents réseaux sociaux et avec une présentation à la fois des métiers mais également des carrières parce que nous avons une large diversité de métiers et donc d'opportunités en France ou à l'international.
Justement, quels sont les métiers de la filière cosmétique qui recrutent le plus? Quels sont ceux qui sont le plus en tension?
Alors, nous avons les métiers autour de la production qui ont besoin, bien évidemment, de recruter. Mais nous avons aussi besoin de nouveaux profils parce que de nouveaux métiers se développent, parce que la filière a des enjeux importants de transition écologique, de transition numérique. Et donc, il y a tout un panel de nouveaux métiers comme data scientist, comme ingénieur analyse de cycle de vie, etc., qui vont se développer, des bioinformaticiens.
Justement, vous vous mettez en avant, notamment dans cette campagne de communication, l'argument écologique, l'argument de l'aspect responsable avec beaucoup de métiers donc qui recrutent liés à la transition écologique. C'est pourtant pas forcément l'industrie la plus vertueuse. Là-dessus, c'est une idée fausse, c'est en train de changer ça?
Oui, là encore, on est en train d'essayer de déconstruire des idées parce qu'effectivement, la filière a toujours été engagée, la filière française, dans le respect de l'environnement, dans le respect du consommateur et elle porte des valeurs fortes. Et elle porte des valeurs parce qu'on touche à l'inclusion, on touche à l'aide, à l'estime de soi, on est de l'ordre de l'utilité pour tout à chacun et puis, bien évidemment, le respect du vivant est au cœur de notre industrie et donc il faut aller toujours plus loin et c'est l'enjeu actuel.
Au-delà de cette communication sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un enjeu également d'aller dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce pour convaincre les profils à aller justement vers cette filière?
Alors c'est vrai qu'hélas, on n'a pas de don d'ubiquité hein, pour se dédoubler et aller un petit peu de partout sur le terrain, mais effectivement, nous avons nos rôles. Nous avons nos adhérents, puisque au sein de Cosmetic Valley, eh bien, il y a un collège recherche et formation. Et donc, nous avons parmi nos membres des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de cosmétique, des écoles de mécanique. Et bien évidemment, elles relaient auprès des jeunes toutes ces campagnes et ces messages.
Mais les entreprises de la cosmétique cherchent aussi aujourd'hui beaucoup de métiers liés à l'innovation, liés à la tech?
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, travailler dans la cosmétique, c'est également travailler dans la tech. C'est indéniable parce que on va avoir des bioinformaticiens qui vont faire de la modélisation à partir, par exemple, de jumeaux numériques. On va avoir, encore une fois, l'analyse des data qui est de plus en plus prégnant, soit dans la production, mais également dans le développement des produits ou alors dans l'expérience consommateur. Et donc vendre des produits cosmétiques, développer, produire des produits cosmétiques passe de plus en plus par le digital.
Est-ce qu'il y a une certaine dichotomie aujourd'hui, une différence entre d'un côté les grands groupes, les L'Oréal, les Guerlain, les géants du luxe, qui sont eux toujours très attractifs pour les jeunes talents, et de l'autre, en revanche, c'est plus compliqué pour les PME, or c'est l'essentiel de la filière?
Exactement. C'est vrai que quand un jeune se dirige vers la cosmétique, on pense immédiatement à ces fleurons de l'industrie française, hein, ces pointes de diamant. En revanche, on a 85% de PME, TPE au sein de notre réseau et elles recrutent et elles sont très actives et elles se développent et elles ont besoin de talents et donc emploi.
L'industrie cosmétique, c'est le deuxième contributeur à la balance commerciale française, juste après l'aéronautique. C'est donc particulièrement important pour l'économie française. Est-ce qu'il y a un risque que cette industrie perde de sa superbe si vous ne parvenez pas à recruter?
Il y a un risque indéniable, hein. Il y a un enjeu de compétitivité parce que bien évidemment, quand on ne peut pas recruter, ça peut induire de limiter des investissements, ça peut induire également de ne pas pouvoir répondre à la demande, par conséquent de perdre des parts de marché et puis de moins innover, donc de se faire rattraper et surtout aussi de ne pas transmettre, parce qu'il y a aussi des départs à la retraite, et si on n'arrive pas à transmettre ce qui relève d'une forme de patrimoine historique français, eh bien, on va perdre en qualité, et donc on sera peut-être moins leader à l'avenir.
Et là-dessus, il y a une certaine forme d'urgence, c'est-à-dire que vous devez trouver des profils dans les un an et demi, sinon c'est quoi? C'est des chaînes d'approvisionnement qui vont s'arrêter?
Tout à fait. Et puis, c'est des chaînes d'approvisionnement qui ne seront pas développées. C'est-à-dire que bah, il y aura des entreprises qui vont se restreindre sur leurs investissements, soit d'extension de sites, d'extension de chaînes, de développement de produits. Il y aura moins de renouveau dans les produits, etc. Donc, c'est vrai qu'on estime à 30 000 emplois embauches d'ici un an et demi.
Et ça peut faire perdre son leadership à la France dans ce domaine ?
Complètement, de un petit peu se reposer sur nos lauriers de manière contrainte ferait que on puisse ne plus être leader mondial de l'export, tout en sachant qu'il y a aussi des challengers internationaux qui sont relativement féroces, et donc il faut continuer à aller de l'avant.
Quels sont justement les principaux concurrents de la France dans ce domaine du cosmétique ?
Alors au niveau des nations qui ont des cosmétiques avec une certaine puissance, on a bien évidemment la Corée pour l'Asie, mais l'Italie pour l'Europe, les États-Unis qui sont aussi très actifs dans ce domaine.
Merci beaucoup Francky Bechereau, directrice générale adjointe de Cosmetic Valley, qui rassemble donc les entreprises de la filière cosmétique. Ça y est, l'intégralité du CAC 40 a publié ses résultats du premier semestre. Si on met de côté les deux groupes qui ont un exercice décalé, les bénéfices ont fondu sur cette première partie de l'année. Les plus grands groupes français enregistrent 11% de profits en moins par rapport à l'année dernière selon le décompte de l'AFP. On en parle avec notre invitée Bénédicte Hautefort, présidente fondatrice de Scalence, qui analyse les publications de 1200 sociétés cotées dans le monde. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir.
Cette baisse des profits, c'est pas une surprise. Hein. Vous qui observez tout cela de très près, il y a eu un grand nombre de publications mitigées ces dernières semaines.
Il y a eu des contrastes. Alors il faut pas oublier et tirer de notre chapeau à tous ceux qui croissent encore à deux chiffres. En France, on a Veolia, plus 15%, on a Edenred, plus 19%, on a tout le secteur de la défense pour d'autres raisons, mais on a des sociétés qui croissent à deux chiffres. Mais il est vrai que la moyenne des profits la moyenne des profits ce semestre est en recul. Alors suivant comment on compte, si on regarde la masse totale des profits du CAC 40, c'est moins 11%. Si on regarde la moyenne des évolutions par société, c'est moins 4%, mais la tendance est là. Un tassement qui vient d'un double effet. D'une part, un tassement de la croissance de l'activité, des ventes, un tassement de la demande. Alors les secteurs les plus exposés à l'Asie sont ceux qui souffrent le plus.
Le luxe par exemple.
Et dans l'Asie, la Chine. Le luxe, par exemple, ceux qui, dans l'Asie, sont exposés au Japon, tirent leur épingle du jeu. Stellantis, qui a des mésaventures comme tout le secteur automobile, souligne que en Asie, pour eux, ça va mieux qu'ailleurs. Donc, dans l'Asie, il faut pas mettre tous les pays sur le même plan. Mais ce qui est vrai, c'est que plus on est exposé à la Chine, plus on est pénalisé. Donc le luxe, l'automobile. On se rend compte aussi que depuis 2 ans. C'est pas neuf. La demande stagne en volume, voire recule en volume. C'était pas forcément très visible parce qu'il y avait beaucoup d'inflation l'année dernière. Cette année, il y en a presque plus. Donc, effectivement, ça se voit en valeur. Et ce qui me frappe dans toutes ces publications, c'est que les sociétés sont volontaristes, prévoient pour le deuxième semestre une reprise du chiffre d'affaires. En tablant sur une reprise de la demande, sur la montée en gamme, sur un effet de mix qui leur est favorable. Donc, si on prend les moyennes par société, en France, le CAC 40 prévoit plus 5% de croissance du chiffre d'affaires au deuxième semestre. Mais il prévoit moins 9% en moyenne de recul des profits.
Pour en revenir aux différents secteurs qui patinent en ce premier semestre, c'est particulièrement difficile pour l'industrie, vous dites, et en particulier pour l'automobile.
Pour l'industrie, pour l'automobile, dans le CAC 40, c'est Stellantis et Renault, donc des sociétés de taille très différentes. Stellantis a eu d'une part des soucis de qualité, a dû rappeler certains véhicules, et d'autre part a des difficultés aux États-Unis, qui est un pays important pour eux, parce qu'ils sont en guerre frontale de prix avec Tesla, qui a lancé des gammes de voitures beaucoup moins chères. Donc Stellantis s'est confronté à une guerre des prix. Et Renault, qui n'est pas confronté à la même guerre des prix et qui n'a pas le même mix géographique, Renault a un effet de taille qui fait qu'il a besoin de... il n'a pas réussi à capter la croissance à ce semestre.
Ce que vous dites également, c'est que les trésoreries croissent plus vite que les bénéfices. Et ça, selon vous, ça indique que les entreprises font des réserves, en quelque sorte. Elles anticipent des difficultés, elles font des provisions.
Oui, c'est un phénomène qu'on observe depuis maintenant... c'est le cinquième semestre consécutif. Les sociétés font des provisions. Ça peut être des provisions pour dépréciation de leurs actifs, si elles considèrent qu'il faut déprécier. Ça peut être des provisions pour des litiges dont on ne connaît pas l'issue et qui sont de plus en plus nombreux. Ça peut être des provisions pour perte de change, parce que les monnaies sont très volatiles. Donc ces provisions sont devenues un phénomène qui n'est plus du tout exceptionnel, puisque c'est tous les semestres qu'on l'observe et qu'on observe que c'est toujours important. Ça veut dire que les sociétés se mettent des coussins, mais on voit que les coussins qui ont été constitués pour ce premier semestre, c'est-à-dire les coussins de fin 2023, n'ont pas suffi et que malgré tout, les résultats se sont dégradés.
Et justement, qu'est-ce que vous entrevoyez pour la suite de l'année quand on regarde l'ensemble de ces publications? Vous l'évoquiez à l'instant, ça va être plus simple pour la deuxième partie, la croissance va revenir?
Les sociétés annoncent que la croissance va revenir. Ce qu'elles annoncent aussi, c'est que la profitabilité va encore se dégrader. Elle va encore se dégrader malgré la reprise de la croissance. Ça veut dire que la croissance ne suffit pas à restaurer la profitabilité. Ça veut dire que les baisses de coûts déjà enclenchées ne suffiront pas. Elle prévoit d'ores et déjà que la profitabilité va se dégrader. Ce qu'elles peuvent absorber parce qu'elles ont beaucoup de cash flow, parce qu'elles sont désendettées, parce qu'elles ont des réserves, le CAC 40. Mais c'est un phénomène très important en bourse, parce que comme vous le savez, les dividendes deviennent des profits. Si on annonce que les profits réduisent, depuis le début de cette séquence d'annonces, le CAC 40 est en baisse. Et malgré les bonnes nouvelles sur le chiffre d'affaires, il est en baisse parce qu'on anticipe pour le printemps 2025 des dividendes en recul.
L'autre grande tendance que vous observez sur cette salve de résultats, c'est la multiplication de la publication d'indicateurs extra-financiers, c'est-à-dire par exemple des données sur le climat. Ça montre qu'il y a une attente de plus en plus pressante des investisseurs là-dessus.
Absolument, absolument. Et alors, ça fait un moment que le CAC 40 a élargi son reporting à des sujets extra-financiers. Ça fait déjà 2 ans. Ce qui est très nouveau ce semestre, c'est que on ne parle pas seulement d'environnement, de climat, de décarbonation ou de diversité, mais on parle aussi d'indicateurs orientés clients. Le taux de satisfaction client, c'est un indicateur de performance que le groupe Orange donne depuis très longtemps, mais qui était le seul. Et aujourd'hui, il y a plus d'un tiers du CAC 40 qui donne un indice de satisfaction client.
Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça signifie?
Je pense que ça va dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure, de focalisation sur le chiffre d'affaires, sur la profitabilité, de savoir que pour qu'on puisse augmenter nos prix, enrichir notre mix, monter en gamme et donc restaurer la profitabilité, il faut que le client soit content. Et je pense que les entreprises du CAC 40, elles ont vraiment cette orientation ce semestre. Là où on voit qu'elles ne sont pas très inquiètes, c'est que les indicateurs de cash flow, les indicateurs de désendettement ne sont pas plus présents que d'habitude. Les indicateurs qui sont des signes avant-coureurs de crise, de trésorerie, de tension, sont pas plus présents que d'habitude. Ce sont vraiment les indicateurs de croissance et de profitabilité qui sont donnés.
Sur les indicateurs liés spécifiquement au climat, c'est en général une question qui revient lors de la période des assemblées générales. Maintenant, c'est dans toutes les publications trimestrielles, semestrielles également.
Ah oui, ça fait depuis... le tournant a été pris, je pense, en juillet 2023. Sur la décarbonation. Et là, cette année, nous observons en France qu'il y a plus de 3/4 du CAC 40 qui donne la progression vers sa démarche de décarbonation, vers l'objectif net zéro. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans leur communication, dans leur culture, et forcément parce que les investisseurs sont à l'écoute.
Et puis, autre nouveauté, vous dites le discours sur l'intelligence artificielle a complètement changé également dans ces publications. Non seulement les grands groupes abordent le sujet dans leurs publications, mais en plus, elles promettent parfois des investissements, parfois des embauches liées à l'IA.
Oui, tout à fait. Et puis, comme Scalin suit également les questions posées par les analystes lors de ces rendez-vous et les décrypte, on voit que c'est un thème de questionnement de chaque publication. Les entreprises expliquent comment elles vont aborder ce sujet de l'intelligence artificielle et qui est disruptif pour tous les secteurs. À tous les moments. Certaines, comme Schneider Electric, effectivement, expliquent que ça va créer des emplois dans le groupe. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel les salariés ont besoin d'être rassurés, parce que on a entendu un raccourci qui était fait entre intelligence artificielle, automatisation et suppression d'emplois. C'est absolument pas le cas. On n'a pas de...
Donc c'est un peu de la communication aussi,
non,
qui vise à rassurer.
Enfin, c'est pas la communication, mais au sens de la transparence. C'est-à-dire que Schneider va créer des emplois grâce à l'intelligence artificielle. Les montants d'investissement pour intégrer l'intelligence artificielle à chaque stade des productions sont colossaux depuis 2 ans et commencent à porter leurs fruits. On voit que les sociétés du CAC 40 s'approprient vraiment cette disruption.
Merci beaucoup Bénédicte Hautefort, présidente fondatrice de Scalence, d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business. Merci infiniment.
Merci beaucoup.